Histoire de peinture. Aujourd'hui, peut-on se faire historien de son temps ?
Je dois dire que je trouve la période contemporaine, l'art contemporain, et quand je dis contemporain, là je veux dire les 10 dernières années, l'art vivant, l'art actuel. Entre parenthèses, c'est toujours un problème, je trouve, la notion d'art contemporain. Parce qu'on dit art moderne, art contemporain, art actuel. Quand est-ce que l'art actuel devient contemporain? Quand est-ce que le contemporain devient moderne? Là, j'aimerais qu'un historien de l'art contemporain me clarifie les distinctions entre moderne, contemporain et actuel. Enfin, passons. Donc, j'aime beaucoup, en tout cas, je suis très intéressé par l'art contemporain. Je trouve la période actuelle extrêmement intéressante et même passionnante à cause de, à la fois, et pour moi, c'est corollaire, je veux dire, des grandes banalités pour les spécialistes d'art contemporain, mais de l'enchevêtrement des pratiques artistiques différentes, des supports de pratiques artistiques absolument fascinant, et en même temps, conjointement, inévitablement, la fragilisation, non pas la fin, ni la mort, mais la fragilisation du système des beaux-arts, qui a comme conséquence la perte de prestige de la peinture. La peinture qui était en fond le couronnement des trois arts du dessin, en quelque sorte, c'est un art universel, comme disait déjà Léonard. La peinture, aujourd'hui, pour certains, en France en tout cas, n'a plus la cote. Ailleurs, elle l'a, elle continue à la voir où elle la retrouve, mais disons, la peinture, on va dire, n'est plus le grand art qu'elle était. Tant mieux, d'une certaine façon, parce que d'abord, elle continue toujours à être un grand art, et ça permet à d'autres expressions artistiques, effectivement, d'exister. Et ce qui m'intéresse beaucoup, personnellement, dans la période contemporaine, c'est l'ouverture. Hein, l'ouverture des pratiques et l'ouverture des œuvres à l'action du spectateur. C'est le spectateur est co-auteur, bien souvent. Même la notion de spectateur n'a plus de sens. Cette notion qui est née, en fait, au XVIIIe siècle, on peut dire qu'à la fin du XXe siècle, elles n'ont pas disparu. Les œuvres qui se proposent toujours à des spectateurs, mais beaucoup d'œuvres sont considérées comme des œuvres d'art sans avoir de spectateurs, mais en ayant des co-acteurs, ou des co-auteurs, ou des co-performeurs, etc. Ça me paraît un point très intéressant. Je ne pense pas que, pour autant, l'ancien système des arts soit défunt. Simplement, il y a un enrichissement des pratiques artistiques et que je trouve extrêmement intéressant, même si cet enrichissement est conjoint à, sur une formule que je ne sais plus qu'il a employée, un désœuvrement de l'art, c'est-à-dire une perte de l'œuvre. La notion d'œuvre, en revanche, est très critiquée. On préfère le processus, on va dire, de création à l'œuvre elle-même. Il y a donc un désœuvrement de l'art, mais en même temps, qui montre toujours que l'art est un besoin, qu'on a besoin d'art. Et là, je reste hegelien, l'art est un besoin de l'esprit. Bon, et je trouve cette période pour cela tout à fait intéressante. Intéressant également, et alors, très franchement passionnant, c'est le fait que on a la possibilité de parler, de discuter avec l'artiste lui-même. J'aurais bien aimé pouvoir discuter avec Raphaël ou Léonard ou X ou Y. Aujourd'hui, on peut. Or, ça me paraît non pas nécessaire, parce que l'historien s'occupe en général de gens qui ont disparu, mais c'est très intéressant parce que ça oblige à se rappeler, même quand on travaille sur le passé, que comme historien, on vient toujours en second. Et dans le fond, l'historien, c'est la deuxième main. C'est l'artiste qui prime. Et à la fois, la conversation avec l'artiste a le mérite, non pas de corriger ce que dirait l'historien, parce que l'artiste peut se tromper sur son travail, ça, il n'y a pas de problème, mais simplement amène l'historien, je dirais, devrait amener l'historien ou le critique à une... Je sais pas le terme, j'aime pas le terme, c'est pas vraiment modestie, peut-être une sorte de réserve ou simplement de position de respect au sens actif du terme à l'égard de l'artiste. L'artiste, même s'il n'est pas très bon, j'ai une très grande admiration personnellement pour les artistes, quel que soit le médium qu'ils emploient, parce qu'ils prennent des risques. Ils prennent des risques parce qu'ils partent de rien et ils font quelque chose. Alors que l'historien ou le critique, il part de quelque chose et il fait autre chose. C'est très intéressant, mais il ne devrait jamais oublier qu'il est en second, le critique ou l'historien. Et je pense toujours à cette phrase de Chardin à Diderot, que rapporte Diderot dans la préface du Salon, je crois, c'est 1765 ou 67, où Chardin, qui avait accroché les œuvres au Salon, responsable très important de l'accrochage, c'était parce qu'il pouvait descendre un tableau ou l'exalter un autre, et disant, après avoir fait visiter le Salon à Diderot, il dit à Diderot, Monsieur Diderot, de la douceur, avant que Diderot ne commence à descendre sauvagement, par exemple, Monsieur Pierre. Enfin, passons, ça, je ne veux pas repartir dans l'histoire du passé, je voudrais envie de parler du contemporain. Alors, J'ai aussi, oui, il m'est arrivé d'écrire sur l'art contemporain. Ça a été à la demande. Jamais je me serais cru autorisé personnellement à avoir l'auctoritas à écrire moi-même sur le contemporain. Mais le premier, c'est Yvon Lambert, hein, qui m'a demandé d'écrire sur Andrés Serrano, le photographe américain. Ensuite, sur Anselm Kiefer, le peintre allemand. Biarpress, hein, c'est Myriam Salomon et Catherine Millet qui m'ont demandé d'écrire sur Rothko et puis sur Cindy Sherman, la photographe américaine. Et puis Léo Cher, l'éditeur, qui m'a demandé d'écrire sur Alain Fleischer et sur Eric Rondepierre. Alors, bon, maintenant, si je connais un peu l'artiste ou si l'artiste me plaît, je suis toujours très honoré. Mais au départ, j'ai demandé, mais pourquoi est-ce qu'on va demander à un historien du XVe siècle, hein, d'écrire sur l'art contemporain? Et avant de dire oui, très franchement, je dis, attention, est-ce que c'est pas un alibi? Est-ce que l'historien de culture classique, habitué au high art, hein, le grand art, est-ce qu'il n'est pas un alibi culturel pour, en fond, promouvoir des artistes contemporains et faire la reconnaissance, la valeur art de l'institution, cette fois-ci scientifique de l'histoire, etc. Alors, c'est une grave question, parce que si jamais c'était le cas, jamais j'aurais pu, bien sûr, écrire. Alors, franchement, non, je ne pense pas que ce soit ça qui est inspiré, parce que ni Arpresse, ni Yvon Lambert n'ont besoin d'alibi, et en tout cas, moi, je n'aurais pas été un bon alibi pour Yvon Lambert ou Arpresse. Je crois qu'il y a une autre raison, et qui est peut-être intéressante, c'est que, et cette raison, très simplement, ça va être une variation sur l'anachronisme. C'est-à-dire que j'ai évoqué l'anachronisme constitutif de l'historien par rapport au passé. Eh bien, l'anachronisme là, consistant à faire appel à un historien du passé pour commenter l'art du présent, je crois qu'il a une très bonne raison, c'est de s'interroger sur le caractère, je dirais, opératoire de la théorie et des concepts classiques en ce qui concerne l'art contemporain, qui lui-même, art contemporain, a rompu complètement avec cette théorie classique. Hein. C'est-à-dire, dans quelle mesure les concepts classiques d'imitation ou de pictura poesis, d'expression, etc., de style, hein, de style, donc de manière, en quelle mesure ces concepts sont-ils opératoires encore dans la pratique d'aujourd'hui? Et ça, c'est une question que je trouve intéressante. Alors, bien sûr, hein, il ne s'agit pas de n'importe quels artistes. Les artistes sur lesquels, contemporains, sur lesquels je peux me sentir légitimé à écrire dans ce contexte, sont des artistes figuratifs, hein, essentiellement, et des photographes. Hein. Les photographes, bon, la photographie comme continuation de la peinture, il y aurait beaucoup, hein, on parle de tableaux photographiques parfois, il y aurait beaucoup de choses à développer sur ce point qui l'ont très bien été. Mais je voudrais même Rothko, hein, avant ces grandes abstractions, hein, célèbres, ben c'était un peintre figuratif et qui était très marqué par le surréalisme. Donc, moi, ce qui m'a concerné à propos de Rothko, c'était comment avait disparu la figure dans l'abstraction, ou plutôt, parce que c'est déjà produit avec Mondrian, hein, comment est-ce que la figure s'était engloutie, hein, dans l'abstraction. Mais comment cette figure engloutie continuait à travailler, hein, l'abstraction de Rothko. Bon, comment il y avait dans le fond, là-dedans, un corps absent, hein, qui travaillait, mais présent là, dans l'abstraction, qui me restait une des dynamiques les plus fortes de Rothko. Or, je ne peux avoir cette dynamique qu'à partir du moment où cette question, qu'à partir du moment où je venais de l'art classique et de l'art figuratif. Puis l'autre point que j'ai trouvé très intéressant à commencer à étudier sur Rothko, c'est qu'il me semble me rappeler qu'il avait été qualifié de sublime, hein, par, je crois que c'est Rosenberg qui avait été qualifié de sublime. Eh bien, il m'a semblé intéressant de mettre cette qualification contemporaine, hein, ce sublime contemporain, à l'épreuve de la définition classique du sublime. C'est aussi bien le pseudo-Mongin que l'anglais William Edmund Burke, hein, le sublime, tout ce qu'il y a de grand, terrible et obscur. Et d'après ce qu'on m'a dit, le résultat n'était pas sans intérêt, parce que l'approche classique de la notion de sublime ne recouvrait pas exactement la conception contemporaine du sublime, et du jeu entre les deux venait quelque chose qui surgissait, quelque chose qui n'était pas sans intérêt pour Rothko, parce que Rothko lui-même avait une très grande culture, et que donc parler du sublime classique n'était pas indifférent à la culture même de Rothko. Alors, attention, il ne s'agit pas du tout pour moi de dire qu'il y aurait une continuité entre art classique et art contemporain, et de suggérer que rien n'a changé sous le soleil, et qu'il y a une petite crise de l'art, mais que de toute façon les grandes valeurs sûres de l'art reviendront un jour. Je pense que l'art d'aujourd'hui est aussi intéressant, hein, que était celui du XVIIe ou du XVIIIe siècle. Je pense qu'il y a autant de bons artistes aujourd'hui qu'il y en avait dans le passé. Simplement aujourd'hui on est submergé de noms d'artistes, et c'est tout à fait normal. Déjà, si vous regardez le salon de Diderot, vous verrez le nombre d'artistes dont on ne sait plus rien, et qui étaient peints d'une médiocrité absolue. Alors, je ne dis pas qu'il y a beaucoup d'artistes médiocres, mais le nombre d'artistes n'est pas un problème. L'art contemporain est aussi intéressant que l'ancien, et par ailleurs, il est vraiment en rupture. Il n'y a pas de continuité, je ne suis pas en train de dire, hein, il y a une continuité entre classique et contemporain. Plutôt, ce qui m'intéresse vraiment, c'est ce que j'appellerais la réarticulation, ou peut-être plutôt la relève, hein, contemporaine d'enjeux artistiques anciens. Je dis ancien, pas classique, parce que ces enjeux artistiques qui peuvent remonter à Pline l'Ancien, et pas remonter à l'Antiquité romaine. Hein. Et alors, c'est ça qui m'intéresse. Comment est-ce que la pratique contemporaine, les pratiques contemporaines, peuvent faire une relève d'enjeux anciens, voilà, disons, d'enjeux anciens de l'art, pourvu que les œuvres s'y prêtent. Parce que toutes œuvres contemporaines ne font pas une relève de pratiques anciennes. Par exemple, personnellement, malgré toute l'admiration et que j'ai pour, enfin le goût que j'ai pour son œuvre et l'admiration que j'ai pour son discours, je serais incapable d'écrire quelque chose sur Buren. Je ne pourrais pas, parce que la pratique de Buren, là vraiment, je ne vois pas en quoi, hein, elle réarticule ou relève des enjeux anciens de l'art. Il y a des propositions qui sont des propositions critiques sur l'art contemporain lui-même, cette situation actuelle, qui échappe à la problématique, je pense, hein, classique. En revanche, si je prends Serrano, hein, André Serrano, le photographe américain sur lequel Yvon Lambert m'avait demandé d'écrire pour sa série photographique Morgue, vous savez, qui présente des détails d'individus morts, photographiés à la morgue de New York. Bon, série qui a fait scandale, mais Serrano aime faire scandale. Moi, ce qui m'avait intéressé, j'ai failli ne pas écrire, hein, parce que c'est assez impressionnant comme image. Et puis, d'abord, j'ai rencontré l'artiste, hein, je suis allé le voir à New York, on a parlé pendant toute une journée, et ensuite, tout d'un coup, j'ai vu un moyen d'accrocher Serrano, de pouvoir l'accrocher depuis mes problématiques. C'était l'idée de la Venustas. Hein, tiens, la Venustas, c'est cette beauté vénusienne, hein, de la vie qui court sous la peau. Et là, je crois vraiment que le travail de Serrano, son enjeu le plus profond, c'était la Venustas de la mort. Hein, et alors, c'est ça qui est scandaleux, qui fait scandale. Prétendre, hein, que le visage d'un bébé mort est doué d'une Venustas, ça va très loin, hein. Mais je veux dire, j'ai une grande admiration pour la série Morgue de Serrano, pas pour tout Serrano, parfois ses provocations sont vraiment trop élémentaires. De même, Cindy Sherman, depuis ses styles films, hein, les premières images, hein, de pseudo-plans fixes de cinéma, de photogrammes de cinéma, jusqu'aux dernières, où ses autoportraits sont mis en scène tout à fait autrement, moi, ce qui m'a fasciné chez Cindy Sherman, je l'ai rencontré aussi, on a discuté pendant pas toute une journée malheureusement, mais au moins 3 heures, c'est d'un coup de penser, en regardant ses photos, au Narcisse d'Alberti. Hein, c'est-à-dire que le narcissisme de Cindy Sherman n'était pas un narcissisme au sens analytique simplifié d'une psychanalyste de bas étage, c'était vraiment le narcissisme d'Alberti qui travaillait la présentation de Cindy Sherman. Mais la plus grande surprise dans le contemporain, et j'espère bien en avoir d'autres par la suite, ça a été évidemment Anselm Kiefer, hein, l'artiste, on va dire peintre, mais l'artiste, le sculpteur allemand. Et là, ça a été une surprise vraiment intéressante, parce que d'abord, j'ai consacré du temps, quelque chose, 5-6 ans de travail sur Kiefer, beaucoup d'informations, j'ai dû avoir des informations, me faire ma propre culture sur la culture allemande, la situation de la peinture allemande dans l'après-guerre, etc. Bon, même la société allemande, etc. Et ce qui m'a fasciné chez Kiefer, c'était comment... Et là, c'est vraiment un travail d'historien. Il est contemporain, mais pourtant, en même temps, disons, la méthode, c'est absolument une méthode d'historien classique. C'est-à-dire comment, à partir d'un travail, non pas de mémoire, hein, parce que vous savez, Kiefer est né en 1945, ses premières œuvres datent du début des années 70, 1969-70, il participe à cette remise en cause, hein, cette réétude du silence allemand, de la culture allemande, de la culture allemande, etc. Bon. Et c'est pas, et donc du nazisme dans la culture allemande, ce n'est pas un travail de mémoire que faisait Kiefer, c'est un travail sur la mémoire allemande. Et là, j'ai très frappé, en suivant son parcours, en regardant les dates, en faisant la chronologie précise, de voir comment ce parcours d'artiste allait d'un travail sur la mémoire, jusqu'au moment où, dans le fond, la mémoire, ça va être jugé, ça c'est très nietzschéen, il a fait passer la mémoire au tribunal de l'histoire, et à ce moment-là, il ouvrait vers d'autres itinéraires, dans lesquels les thèmes anciens continuaient à jouer en basse continue, mais entièrement transformés, repris, réélaborés. Et la grande surprise, je veux dire, l'étonnement que j'ai eu, c'est de voir que ce que je savais par ailleurs sur la fin du Moyen-Âge et la Renaissance, sur les arts de la mémoire, hein, et les pratiques des arts de la mémoire, ces pratiques où on a ça des images dans des lieux, et qui pratiques dont on a paraît tout oublié aujourd'hui, mais si, seuls les spécialistes savent encore ce que c'était que l'art de la mémoire, bien curieusement, me fournissait un instrument d'interprétation d'une précision, je crois, extraordinaire par rapport aux œuvres de Kiefer, alors que Kiefer ignorait tout, lui a une culture, c'est un homme extrêmement cultivé, Anselme Kiefer, sur le passé comme sur le présent. Il se trouve qu'il ignorait le livre de Francis Yates sur l'art de la mémoire, je lui ai offert, il l'a trouvé passionnant, et il a été d'accord pour dire que, dans le fond, ma description était juste. Effectivement, il travaillait sur la mémoire et que son travail consistait effectivement à créer des bâtiments de mémoire dans lesquels il mettait des images inattendues. Là, je me suis dit, alors oui, une approche ancienne, classique, peut être fructueuse, pas sur n'importe quel artiste. Je pense que sur nos artistes allemands, ça aurait été totalement inefficace. Je pense que sur Beuys, ça n'aurait pas grand-chose à voir, ou sur Richter, sûrement pas. Mais il se trouve que cette approche-là était très efficace sur Kiefer. Alors, ça me mène à cette réflexion qui vont boucle la boucle, en quelque sorte. C'est que la contemporanéité, comme le 15e et le 16e siècle, la contemporanéité est travaillée par plusieurs temps, par plusieurs temporalités. La contemporanéité, elle est elle-même anachronique, au sens où je le disais, de même qu'une œuvre du 15e siècle mélange différents temps, des temps, du présent et temps du passé, qu'une œuvre mélange les temps, toujours, dans son temps de production. Ce qui est fascinant pour moi dans l'art contemporain, dans la partie d'art contemporain qui me fascine, sur laquelle je me sens pouvoir éventuellement dire des choses, ce sont vraiment ces œuvres où s'enchevêtrent les temps. Et sans mettre les temps, et montrant comment il n'y a pas de temps un. Il y a toujours un temps qui a déjà un temps antérieur dans son propre temps, et comment la contemporanéité qui, elle, celle qui me passionne, eh bien, elle est justement travaillée par cet anachronisme, par l'anachronisme constitutif, je crois, de toute œuvre d'art, qui est à la fois son monde de production et toute la mémoire, éventuellement, de l'art antérieur. Et dans ce contexte, le rôle de celui qui écrit sur ses œuvres, qu'il s'agisse du 15e siècle ou de ce genre d'œuvres contemporaines, son rôle, pour moi, je dirais seulement un rôle de passeur, d'être éventuellement le passeur entre... alors, c'est un passeur sans prétention, un tout petit passeur, j'ai bien dit la deuxième main, celui qui compte, c'est l'artiste, mais, disons, tenter d'être un passeur entre le travail de l'artiste, qui dans le fond peut n'avoir rien à dire dessus, ou peut même dire des choses pas forcément intéressantes sur ce qu'il fait, et les contemporains. Parce que qu'est-ce que c'est que la contemporanéité? C'est pas la simultanéité. La simultanéité, ça veut dire deux choses sont en même temps. Pour qu'il y ait contemporanéité, il faut qu'il y ait interaction entre les deux. C'est pas seulement, je veux dire que dans l'art contemporain, tout n'est pas aussi contemporain. Et que pour qu'il y ait contemporanéité, il faut qu'il y ait partage des temps. Et qu'on partage des temps entre l'œuvre et celui ou ceux qui la regardent. Donc l'œuvre du 15e siècle est ma contemporaine, puisqu'aujourd'hui je la regarde, et donc elle est ma contemporaine de mon temps d'aujourd'hui. Et certaines œuvres d'aujourd'hui, pas forcément toutes, sont mes contemporaines, parce que je les regarde. Celles que je ne regarde pas ne sont pas mes contemporaines.
Histoire de peinture par Daniel Arras. Réalisation Christian Chazalon, Jean-Michel Bernot, Jean-Claude Loiseau. Remerciements à Bernard Comand.